plonge dans votre assiette.
On peut reprocher à l'AFSCA de ne pas avoir évalué, apprécié la situation telle qu'elle l'aurait dû.
Voilà, les mots durs du ministre de tutelle de l'AFSCA, Denis Ducarme, affaire Vévibat, malgré l'AFSCA, malgré les règles européennes, François Jemaine, est-ce que nous sommes condamnés à vivre au jour le jour des scandales alimentaires? On a vu encore qu'il y avait une étude qui parlait des bouteilles d'eau pleines de plastique.
Je crois malheureusement qu'on sera condamné à vivre de plus en plus de scandales alimentaires, tant qu'il n'y aura pas de remise en question profonde des logiques de production et de consommation des aliments, non seulement en Belgique mais aussi en Europe, on sera condamné à revivre ce genre de scandale. Il faut se souvenir que l'AFSCA a été créée en 2000, le 4 février 2000, juste après le scandale de l'Uexine, avec l'idée que ça allait mettre fin au scandale alimentaire. Et donc on a mis un contrôleur, mais on n'a pas du tout pensé à changer le système. Et donc malheureusement, je pense qu'on sera condamné à revivre ce genre de scandale, tant qu'il y aura une sorte de course à la rentabilité et une course au plus bas prix. Et aussi, c'est un élément qu'on oublie souvent dans le débat, tant qu'on consacrera aussi peu de temps à manger. Le Belge consacre assez peu de temps à manger, 1h30 par jour seulement pour les 3 repas, c'est-à-dire juste à la moyenne de l'OCDE. Des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Danemark consacrent chacun plus de 2 heures par jour à manger. Donc on veut manger sans cesse plus vite, sans cesse moins cher, et donc forcément ça entraîne ce type de scandale.
Donc François Jemaine, vous nous dites qu'il faut cuisiner.
Il faut simplement cuisiner, et surtout il faut remettre, à mon avis, les agriculteurs et les éleveurs au centre du modèle, et ils ont aujourd'hui malheureusement la place de victimes.
Sophie.
Oui, non, mais là je suis tout à fait d'accord. Il y a d'autres études qui montrent que non seulement le Belge ne consacre pas assez de temps à manger, mais il mange beaucoup de viande. Donc sur ce sujet-là, ici en particulier, c'est important parce qu'il y a évidemment la question de est-ce qu'on réforme donc l'institution qui est censée, l'organisation qui est censée contrôler le système, ou est-ce qu'on réforme le système lui-même? Et là je suis tout à fait sur la ligne de François sur laquelle il faudrait réformer le système. Mais donc il y a des choses à faire aussi, diminuer la consommation de viande, changer donc la production. Là, il y avait des propositions intéressantes, je trouve, de la part du CDH quand il suggère d'aller vers les coopératives, donc de faire en sorte que les éleveurs producteurs puissent directement posséder l'outil, hein, donc plutôt que d'avoir toutes ces chaînes complètement fragmentées, etc. Et ça, je pense que de manière générale, revenir à une production beaucoup plus locale aussi, ce qui ne va pas du tout dans l'air du temps, évidemment, parce qu'il y a toute la question aussi de l'européanisation, de l'internationalisation du marché qui est déjà là et qui va se faire de plus en plus, puisque comme certains l'ont pointé dans le débat, il y a tout de même les négociations entre l'Union européenne, le Mercosur et d'autres groupes régionaux et d'autres pays sur la question de l'importation de viande et d'autres produits alimentaires. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on met en place des règles qui sont non seulement suffisantes au niveau belge, mais qui puissent être compatibles et qui puissent être équilibrées aussi par des règles supranationales et globales qui soient tout aussi exigeantes. Et là, évidemment, l'enjeu est beaucoup plus difficile.
Mais si on dit aux Belges manger moins de viande, ça va pas faire plaisir du tout aux producteurs de viande, ça.
Certainement pas.
L'emploi, question de.
Certainement pas. Ceci dit, il est certain que les éleveurs ont aussi la possibilité, d'une certaine manière, de diversifier leur production et qu'il n'y a pas que l'élevage dans l'agriculture. Ça, c'est important de le dire. Et puis, il faudra aussi poser la question des contrôles politiques. Des responsabilités politiques sur les contrôles. On sait que les grandes entreprises comme Vévibat étaient prévenues des contrôles à l'avance, que ces contrôles étaient généralement effectués par des vétérinaires sous-traitants de l'AFSCA. Et donc il est certain, quand on est un acteur aussi dominant dans le secteur, qu'il y a un peu une logique parfois de contrôleur contrôlé. Et donc il faudra se poser aussi la question de savoir si c'est pas un système qui est en place et un véritable scandale de Bastogne.
Oui, tout à fait. Et sur la question, en effet, de changer les modes de consommation et de l'impact que ça peut avoir sur l'industrie, sur le système économique lui-même, c'est une question beaucoup plus large. Dès qu'il y a des transitions, eh bien évidemment, il y a des difficultés. Et ça, c'est aux politiques de prendre les choses en main et de planifier ça. Enfin, les scandales sanitaires et alimentaires à répétition depuis des années devraient tout de même faire prendre conscience aux acteurs politiques, voilà, en période quand même déjà préélectorale, à plusieurs niveaux, qu'il y a des choses fondamentales à changer dans le système.
Et on peut même se dire, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas l'AFSCA?
Quoi, ce serait pire?
À mon avis, c'est d'être vraisemblablement, oui.
Qu'on ne peut pas faire confiance.
Je pense que malheureusement, quand on est dans un système avec l'apparition de plein de supermarchés à bas prix qui cassent les prix et qu'on tire sans cesse les prix de l'agroalimentaire vers le bas, forcément, à un moment donné, dans la chaîne de production, il y a des abus qui sont commis, oui.
Allez, on change de thème, on change de sujet, on va parler de l'amour. L'amour du pouvoir, et on vous emmène d'abord en Russie.
Poutine est un homme complètement fou. Avant, il était très rationnel. On pouvait avoir une idée de ce qu'il allait faire. Mais maintenant, il est devenu imprévisible. Et pour un homme qui détient l'arme atomique, c'est très dangereux.
Voilà, l'homme que vous entendez, c'est un opposant à Vladimir Poutine. Poutine qui devrait se faire réélire dimanche. Ben, il est plus ou moins au pouvoir depuis 2000, ça fait 18 ans. Il plonge pour un quatrième mandat. Alors, il y a Angela Merkel. Qui veut également, qui a un quatrième mandat aussi, un mandat à vie qui a été décidé en Chine pour Xi Jinping. Alors, la question, elle est simple, Sofiane. Est-ce que l'alternance politique a un avenir?
Oui, alors...
Est-ce qu'on n'a pas besoin de despotes éclairés pour nous faire avancer?
C'est un vieux débat de théorie politique et de politique pratique, mais moi, ce qui m'a un peu mal à l'aise, c'est de mettre ces trois... Enfin, de comparer ces trois pays qui sont, pour moi, incomparables, à partir du moment où, la Russie est une dictature avec des élections, voilà, cosmétiques. Il y a une multitude de candidats, mais on sait très bien que la société civile, les minorités, les médias, etc., sont contrôlés. La Chine est une dictature beaucoup plus évidente. Je ne mettrai pas l'Allemagne dans le même sac, même si dans le cadre européen, on peut dire que la démocratie est devenue beaucoup plus formelle que réelle, mais ça reste une démocratie représentative. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus étant européenne, c'est évidemment la question, et indirectement le pays sur lequel on peut intervenir, c'est l'Allemagne. Et je pense que ça, là, la question de l'alternance est vraiment très intéressante, mais sur le plan au niveau du fond aussi, et pas uniquement au niveau formel, à partir du moment où le fait que Angela Merkel ait fini par mettre en place de nouveau une coalition avec le SPD, eh bien, ça limite l'alternance en termes purement formels de parti au pouvoir, mais ça limite aussi l'alternance en termes de politique. Et là, il faut bien entendu se rappeler qu'on est dans un cadre beaucoup plus général aussi, dans lequel il est plus difficile pour un parti clairement à gauche ou clairement à droite de mettre en place une politique qui correspond à son programme et donc à son idéologie, à son projet, etc. Et donc l'alternance, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que simplement qui est au pouvoir, quelle figure, quel parti, quelle personne même est au pouvoir. C'est une question de possibilité de développer des programmes politiques alternatifs. Et là, je pense que dans le cadre européen, peut-être si on met en place une vision du type de Macron ou d'autres, alors on réouvrera le débat politique sur ce plan-là, mais c'est devenu très difficile, même pour un grand pays comme l'Allemagne, d'avoir une véritable alternance sur le fond, autant que sur la forme.
François Gemmen, même au sein des partis, c'est difficile de se réinventer et de faire émerger d'autres idées et d'autres leaders.
J'ai le sentiment qu'il y a une certaine fatigue, en réalité, que c'est un peu comme si nous étions un peu fatigués de la démocratie libérale. Et je suis frappé de voir comme il y a de plus en plus une sorte d'aspiration à des régimes autoritaires. L'IFOP, l'année dernière, en 2017, réalise un sondage et 38% des Français se disent prêts à accepter un régime autoritaire. Et même plus de la moitié des Français, 55%, se disent prêts à accepter un gouvernement d'experts non élus technocratiques. Et donc il y a une sorte d'aspiration véritablement à ces régimes autoritaires qui n'épargnent pas non plus la Belgique. On a aussi en Belgique des leaders populistes et autoritaires. Et un peu comme si l'Europe était divisée entre deux tendances, d'un côté une sorte d'aspiration à des régimes autoritaires et de l'autre une sorte de tendance au dégagisme, à sortir les sortants et à mettre au pouvoir des populistes qui changent sans cesse au gré des élections. Et finalement, la Belgique fait un peu figure de parent stable de l'Europe grâce à ses gouvernements de coalition qui sont finalement des gouvernements un peu de bon père de famille, comme on dirait pour utiliser une vieille expression sexiste, c'est-à-dire qui font juste un peu
la gestion
de l'acquis, mais qui n'entreprennent plus aucune véritable réforme. Et on a l'impression, effectivement, qu'on est un peu en manque de projet politique.
Je pense qu'il y a en effet cette aspiration peut être là de façon latente.